Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Campus Tours où ce soir nous sommes en direct de l'espace Jacques Villeray avec à mes côtés Alexandra Lapati, déléguée d'éducation jeunesse à Ligue de l'enseignement et Marité Claire, directrice de l'espace Jacques Villeray. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir. Bonsoir.
Alors on est en, donc, comme je disais, en direct de l'espace Jacques Villeray. Qu'est-ce qui se passe ici aujourd'hui à l'espace Jacques Villeray?
Alors, je m'appelle Alexandra Latapi, je suis déléguée éducation jeunesse et je travaille pour la Ligue de l'enseignement d'Indre-et-Loire. Ce soir, on organise une soirée un petit peu exceptionnelle à l'espace Jacques Villeray. On propose des animations de 17h à 20h, où on a en partenariat avec la Maison des Jeux de Touraine, également les Fontaines de l'Art, qui est une association locale, et puis également avec Radio Campus, qui nous fait l'honneur d'être présent voilà, pendant 2 heures, et animer une émission en direct de l'espace Jacques Villeray, et bien évidemment, en collaboration aussi avec la ville de Tours, précisément le service de la cohésion sociale. C'est pour ça que l'espace Jacques Villeray nous reçoit. Et puis également aussi, il y a une expo, une exposition en fait de ce que les jeunes ont pu réaliser pendant les vacances d'automne, les jeunes qui habitent quartier des Fontaines.
Alors on va parler tout de suite après de la du programme de la soirée, mais alors dans un premier temps, est-ce qu'on peut peut-être présenter l'espace Jacques Villeray?
Oui, bien sûr, c'est un vaste sujet. Voilà. L'espace Jacques Villeray, c'est en fait une plateforme de services qui regroupe un certain nombre de services comme le nom l'indique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un lieu de proximité pour les habitants, du service au public. Voilà. Donc on y trouve une mairie, on y trouve une médiathèque, on y trouve un pôle petite enfance, on y trouve plein de choses. Deux salles pour les habitants pour des fêtes qui rayonnent sur l'ensemble de la ville de Tours, voilà, et une salle de spectacle.
Voilà. On rappelle que l'espace Jacques Villeray, c'est dans le quartier des Fontaines à Tours.
Voilà, c'est le quartier des Fontaines. Et je rassure les gens, les voitures ne brûlent pas aux Fontaines. Parce qu'en général, il y a toujours une petite appréhension de venir aux Fontaines. Et on y vit bien, aux Fontaines. On y vit bien.
Et alors, pourquoi ce soir avoir choisi l'espace Jacques Villeray
Comme l'a dit Marité, c'est vrai que c'est un lieu ressource pour les habitants des quartiers des Fontaines, donc ça paraissait normal de s'installer ici pour un temps fort. Voilà, moi c'est peut-être une question à Marité, il y a combien d'habitants sur le quartier des Fontaines?
Environ 7000
habitants. 7000
habitants. Ouais, avec une mixité de population très importante. Enfin, voilà, c'est très mixte et c'est intéressant. Voilà.
Et par rapport à l'espace Jacques Villeray, vous avez une programmation jeune public, c'est ça? Vous êtes concentré
sur... Alors la ville de Tours a choisi, puisque nous avons une salle de spectacle qui est assez mignonne d'ailleurs, enfin j'engage tous les gens à venir, parce qu'on n'imagine pas un lieu aussi joli et aussi sympathique dans un endroit où on a un fantasme un petit peu de danger. Voilà. Donc on a depuis 10 ans la programmation jeune public de la ville de Tours, en partie ici et en partie sur la ville, puisqu'on a, je crois, la disposition de la salle permet d'avoir toute disposition par rapport aux compagnies, c'est pour ça que d'ailleurs c'est beaucoup à Jacques Villeray, et on va aussi un petit peu au nord, au sud, enfin on essaye de voilà.
Et donc Alexandra, et par rapport au projet donc de la journée d'aujourd'hui, est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça, comment ça s'est déroulé?
Alors c'est vrai que alors déjà, il faut quand même rappeler là aux habitants des Fontaines qui sont tous les bienvenus, que l'entrée elle est libre et gratuite pour tous
tout
et pour toutes. Donc déjà pour participer aux animations entre 17h et 20h, aussi d'ailleurs j'ai oublié de rappeler que l'association des habitants des Fontaines vont vendre des crêpes si je me trompe pas et des gaufres. Donc il y aura possibilité de se restaurer et bien évidemment aussi à 20h30. Parce que cet été, on avait programmé un cinéma en plein air, mais à cause du mauvais temps, on n'a pas pu réaliser cette séance, cette projection de Belle et Sébastien de Nicolas Vanier, qui devait être place Garnier, si je ne me trompe pas, si mes souvenirs sont bons. Donc on a reporté cette projection à ce soir, et elle se déroulera donc dans la salle polyvalente de l'espace Jacques Villeray à 20h30. Donc tous les habitants sont les bienvenus pour assister à cette...
Exactement, voilà, tout le monde.
Tout à fait. Ce qu'on peut signaler, c'est que c'est l'été, c'est un rendez-vous attendu, hein, parce que ça fait, je crois, la 13e année qu'on fait ça.
Ah oui.
Voilà, malheureusement, on n'a pas le beau temps depuis quelques années, mais que c'est aussi, enfin, il y a la HDF qui est là présente, mais il y a aussi le comité de quartier. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un vrai moment fort. Bon, d'habitude, c'est en plein air, mais là, c'est à l'intérieur, peu importe. L'important, c'est qu'on s'y sente bien. Voilà.
Et c'est en partenariat avec les tontons filmeurs qui vont pas tarder
à
arriver.
Justement, j'allais demander.
Exactement. Et pour répondre à ta question, Mathilde, depuis cet été, en fait, la Ligue de l'enseignement intervient à la fois sur le quartier des Fontaines et de Roche-Pinard, où la ville de Tours a demandé de proposer une programmation d'animation à destination des pré-ados, donc des 11-15 ans, et puis également aussi auprès des enfants qui, malheureusement, ne fréquentent pas les accueils de loisirs sans hébergement. Et puis aussi, on a un volet autour de la parentalité. Donc, par exemple, là, pendant les vacances d'automne, alors on a proposé des ateliers parents-enfants autour de l'art plastique. Et on a aussi proposé un stage multi-activité, à des pré-ados-ados, donc âgés entre 11 et 15 ans. Et pendant cette semaine, donc, on a proposé des activités diverses et variées, du sport, des activités artistiques et culturelles. Et entre autres, moi, j'ai initié à la pratique radiophonique. Et l'une des entrées a été d'aller à la rencontre en fait des acteurs locaux pour les jeunes, de réaliser des interviews. C'est pour ça que là, tout au long de cette émission, pendant les 2 heures, alors à la fois on aura des associations en direct qui viendront prendre la parole, mais également on aura la chance d'entendre ce que les jeunes ont réalisé tout au long des vacances. Donc ils ont réalisé une interview de Jonathan Michel qui s'occupe de l'espace jeunesse de l'espace Jacques Villeray. Également aussi l'association des habitants des Fontaines, ils ont interviewé la présidente Véronique Cuvier, le comité de quartier par Corinne Voulfauve. On recevra l'association des paralysés de France qui viendra nous parler du projet Jardin Partagé qui se situe au square Berthe-Morisot. Les jeunes ont également interviewé une association ici qui s'appelle le Vestiaire. Ils ont ainsi interviewé le Centre d'information des droits des femmes et des familles qui est implanté sur le quartier des Fontaines. Et ils ont interviewé Nejid El-Badja qui s'occupe du club de boxe des Fontaines. Donc à la fois, ce sera donc des associations en direct qui allons prendre la parole, mais également, on pourra entendre les différentes interviews que les jeunes ont réalisées. Et vraiment pour nous, l'intérêt, c'était permettre aux jeunes d'avoir une meilleure connaissance de leur territoire à travers ces rencontres, mieux connaître les associations qui font vivre le quartier. Et ça a plutôt bien fonctionné. C'est la première fois qu'ils s'essayaient à cette pratique. Et ils ont accepté d'écrire, ils ont accepté aussi d'être à l'écoute, de prendre la parole. Donc ils se sont plutôt bien débrouillés, j'ai trouvé.
Et alors comment ça s'est passé? Sur combien de temps vous avez travaillé avec les jeunes du coup pour faire tout ça, toutes ces interviews?
Alors ça s'est déroulé en 6 jours et on a fait 2 après-midi en fait où on s'est consacré à ces ateliers radio où ils ont pu déjà s'essayer avec un enregistreur, écrire quelques questions, avoir une logique aussi, une progression dans les questions qu'ils allaient poser. Et puis ensuite surtout encore une fois aller à la rencontre aussi d'une personne pas forcément de la même génération, se mettre d'accord sur qui allait dire quoi, quelles questions ils allaient poser. Et puis ensuite lors de l'interview aussi avoir de l'écoute vis-à-vis de ce qui se disait par rapport à la personne qu'ils interviewaient. Et vraiment puis là je suis assez ravie parce que je vois qu'ils sont tous présents, donc je me dis que
ils
ça a fonctionné. Ouais, exactement. Ils sont branchés sur le 99.5. Ils sortent leur smartphone avec leur casque.
T'as vu les casques tout à fait dorés
avec des smileys
tous connectés.
Exactement. Donc autant ils sont dans l'espace, ils sont pas encore prêts à prendre le micro en direct, mais ils sont ravis d'entendre ce qu'ils ont pu faire tout au long des vacances.
Je rajouterais juste que ce qui est aussi intéressant pour des jeunes de cette génération, c'est qu'ils ne poussent pas les portes forcément des associations et que par ce biais-là, c'est vachement intéressant.
Voilà. Et c'est eux qui ont choisi alors du coup les interviewer ou ça s'est passé avec vous, j'imagine aussi.
Alors là, j'avoue que pas forcément. Alors là, c'est moi qui ai effectivement contacté les associations au préalable parce qu'en fait, on voyait qu'ils n'avaient pas forcément connaissance
ils
de
ça. Ils n'avaient pas les idées,
ouais tout à fait. Exactement. Entre autres, tout ce qui était lié au comité de quartier, les associations des habitants des Fontaines. Alors autant le club de boxe, ça, ils avaient les associations sportives, ça, ils en avaient écho, mais pas les associations en fait d'habitants.
Et alors ça leur a plu. Enfin, je sais pas, peut-être qu'on leur demandera.
Enfin, moi, je peux dire parce que j'ai juste entendu les interviews. Je trouve qu'ils ont été nickel.
Ils ont bien travaillé.
Non, c'est même pas travaillé. J'ai trouvé qu'ils étaient très à l'écoute, ce qui est pas toujours le cas. Et puis ils avaient préparé avec Alexandra les questions. C'était vraiment nickel. Moi, j'ai trouvé ça un super boulot et c'est vachement intéressant. C'est une autre façon d'aborder les structures. Moi, je trouve que voilà, c'est une façon. C'est ça la pédagogie active.
Ouais, tout à fait. Et puis c'est là où on voit que la radio, c'est un moyen, pas une fin en soi. C'est-à-dire que c'est un outil. C'était assez impressionnant de voir des fois qu'on avait un peu de mal à les canaliser, mais du moment où l'enregistreur démarrait, ils étaient sur une posture très sérieuse.
Et pour en revenir à l'espace Jacques Villeray, du coup. L'objectif un peu de la salle au niveau de la jeunesse, présenter un peu les objectifs, les directives un peu que vous avez.
Je ne sais pas si on peut parler de directives, mais tous les cas, ça se veut un lieu, si tu veux, de multi-accueil, où on retrouve un petit peu toutes les générations, etc., à des moments très différents. ou ensemble, hein, voilà. Donc on est un peu ouvert à des partenariats comme on le fait avec la Ligue, parce que nous on est mairie de Tours, hein, on représente la ville, et que c'est un super projet qu'on a essayé d'accompagner à notre niveau, j'ai envie de dire. Et puis bah, tout ce qui s'y passe un petit peu, c'est soit les associations qui viennent nous voir en disant on a envie de faire on a envie de faire ça, et nous on essaye en fait de travailler avec eux pour voir, pour mettre du sens un peu à ce qu'on fait. C'est-à-dire que l'idée c'est pas de plaquer des trucs, voilà, c'est l'idée aussi de se dire bah voilà, vous faites ça, nous on fait ça. Par exemple, je vais avoir je cite un exemple, mais qui pourrait être 46 000 exemples. Là, par exemple, ils ont, avec Catherine, ils ont fait des totems. On va recevoir Plume d'Afrique. Voilà. Et ben, l'objectif, quand même, c'est que là, les enfants, ils ont réalisé des choses. Et que pendant que d'autres personnes vont venir voir le spectacle, et ben, ils vont profiter aussi de ça. Et moi, je trouve qu'il y a une forme de fierté. On fait la même chose avec le Printemps des Poètes. On fait, là, par exemple, je reçois une artiste qui fait des aquarelles autour des doudous. Elle va venir au même moment que va y avoir une résidence sur la petite enfance. Et il va y avoir un spectacle petite enfance. On essaye de faire du lien à notre niveau. Et pour que, en fait, voilà, que tout le monde s'y retrouve, mais qu'on croise les populations. C'est ça qui nous intéresse. Voilà.
Vous mettez en place un certain nombre de spectacles, d'expositions. C'est des artistes locaux ?
Pas forcément. Pas forcément, d'un petit peu de tout. C'est souvent d'ailleurs des gens qui viennent nous voir. Voilà.
D'accord.
Ou alors moi, quand on a un peu l'habitude de sortir, ben, j'ai envie de dire, on repère des gens, on parle, et puis ça se croise comme ça. Puis voilà, à un moment donné, on trouve que ça a un intérêt. Là, on peut dire qu'au mois de décembre, j'ai reçu une exposition qui s'appelle avec l'association Arpanda. Voilà, et ben ils vont revenir au Printemps des Poètes sur un autre projet qui va être un poème, un tableau, un poème. Voilà, et nous on fera une soirée par rapport à ça, et il y aura aussi un spectacle par rapport à ça, et voilà. Et ça se croise et ça se maille comme ça.
Du coup, vous êtes concentré sur la jeunesse, est-ce que vous travaillez avec différentes écoles aussi ?
Alors,
collège peut-être.
Nous, on n'est pas centré sur la jeunesse, on fait du tout public. Là, en ce moment, c'est les jeunes, mais demain, ce sera des adultes. Enfin, c'est
d'accord.
Pas ça qui est important. Alors, sur la programmation jeune public, oui, effectivement, parce que là, c'est centré sur de la diffusion pour faire découvrir des spectacles. Mais on a un petit peu de tout public. Hein. Voilà. Ta question, c'était ?
La question, c'était est-ce que vous travaillez avec des écoles ou des collèges ?
Alors là, c'est oui, nous, on travaille avec un petit peu moins cette année le collège, mais l'année dernière il y a eu tout un travail fait avec une classe de 5e autour d'une résidence d'artistes autour de Hansel et Gretel.
D'accord.
Ça a été des moments magiques, et là on a aussi travaillé l'année dernière dans le cadre de la programmation jeune public et du label Rayon Frais, hein, puisque voilà, la ville de Tours et le service culturel a permis ça. On a travaillé avec une école entière de maternelle.
D'accord.
Avec une chorégraphe. Ça a été des moments magiques. Enfin, je le dis parce que, à voir, quand on voit ces petits loulous, là, enfin, excusez-moi, mais moi, j'en suis encore émue. Voilà. Ça a été un vrai travail, hein, enfin, très, très intéressant. Et là, l'école entière ira voir la création à la Pléiade. Voilà, donc va se déplacer en bus et va aller dans une autre salle de spectacle. Je trouve que voilà. Et le travail continue. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu toute une année où la chorégraphe a été là, où elle a été dans les classes, etc. Et là, il va y avoir de nouveau des séances pour reprendre avec eux. Et c'était sur les miroirs neurones, c'est-à-dire autour des émotions. Mais c'était magique.
D'accord, très bien. Voilà. Pour en revenir du coup à ce qui se passe aujourd'hui ici, du coup il y a des animations donc avant 20h30, c'est ça la diffusion de Belle et Sébastien. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a comme différentes animations ici, mis à part l'exposition qui est en train de se faire devant nous ?
Tout à fait, l'exposition donc qui valorise vraiment ce que les jeunes ont pu réaliser tout au long des vacances d'automne. Alors il y a la Maison des Jeux de Touraine qui se trouve dans la salle de danse, donc qui propose des jeux de société, des jeux en bois géant. Et puis également Catherine Dufresne, donc, qui est présidente de l'association Les Fontaines de l'Art, qu'on recevra d'ailleurs plus tard dans cette émission, qui propose des activités, une activité en fait autour des arts plastiques. Encore une fois, c'est gratuit, c'est accessible à tous. Et puis j'ai envie de dire aux petits comme aux grands aussi, il ne faut pas que les parents s'interdisent de venir pour accompagner leurs enfants dans cette pratique. Voilà ce que vous allez pouvoir faire aujourd'hui à l'espace, ce soir à l'espace Jacques Villeray avant
tout de suite, d'ailleurs.
Ouais, exactement, c'était dès 17h, donc là ça commence, les jeunes sont déjà autour des tables de jeu. Ils arrivent. Voilà, juste pour revenir par rapport à ce qui s'est vécu, alors. surtout pendant les vacances d'automne. On parlait d'Espace Jacques Villeray, par exemple, l'une des collaborations, c'est une compagnie, est-ce que tu peux redonner, le mercredi 21 octobre, qui nous a offert en fait des places. Et donc nous, on a pu, comment elle s'appelle déjà cette compagnie ?
C'est la compagnie, enfin c'est les Quetzal.
Voilà. Qui ont eu la gentillesse en fait de nous offrir une vingtaine de places pour assister au spectacle. Et donc nous, on a pu mobiliser en particulier des mamans et leurs enfants pour venir assister à ce spectacle, et les habitants des Fontaines, enfin ces mamans, ces familles ont répondu présentes. On a également aussi organisé une journée à Paris. On a emmené une cinquantaine de personnes. Donc ça représentait une vingtaine d'adultes et une trentaine d'enfants âgés entre 2 et 15 ans qu'on a donc emmenés pour découvrir Paris, la Tour Eiffel, les Champs-Élysées, l'Arc de Triomphe et un petit tour en bateau-mouche. Étant de la Ligue, bien évidemment, on a travaillé avec nos camarades de l'UCEP et de l'UFOLEP qui ont proposé une randonnée citoyenne, mais également aussi des activités sportives autour des sports émergents, innovants. On a proposé un atelier radio, des ateliers arts plastiques. Enfin voilà, l'idée c'était de proposer une variété aussi d'activités à ces jeunes. Et aux Fontaines, ça a vraiment bien fonctionné parce que ça, j'étais
présent.
Ouais, exactement. C'était on était ouvert pour 14 jeunes, et au quotidien, nous avons eu 14 jeunes.
14 jeunes. Tout le temps.
Voilà, des filles, des garçons âgés entre 11 et 15 ans.
Et t'en avais parlé ici, ou t'avais fait du recrutement en quelque sorte?
Alors,
c'est
pas l'objectif de recruter.
Non, bien sûr. Alors après, c'est vrai que.
Dans le contexte.
Ouais, voilà, nous on est intervenu cet été en juillet et en août. On avait proposé une animation de rue, on avait proposé aussi des sorties ponctuelles pour les pré-ados et également des événements famille. Donc déjà, ce qu'on a fait prioritairement, c'est qu'on a fidélisé aussi le public qu'on avait rencontré cet été. Donc on a appelé de nouveau les parents, parce que c'est vrai que c'est un travail aussi de confiance vis-à-vis des familles. Donc on a rappelé les parents, on leur a expliqué qu'on revenait sur le territoire, qu'est-ce qu'on proposait. Donc des parents de nouveau nous ont accordé leur confiance, ont inscrit leurs enfants, leurs jeunes. Et puis ensuite, bien évidemment, l'idée c'était aussi de capter des jeunes qu'on ne connaissait pas encore. Donc par exemple, on a travaillé en partenariat avec le collège Philippe de Comines.
C'est ça que je venais tout à l'heure à demander, si vous travaillez avec des écoles, c'était pour aussi en parler aux jeunes dans les classes et les faire venir.
Ouais, tout à fait. On a aussi tenu des permanences ici à l'Espace Jacques Villeray, vu que c'est un lieu où les enfants, les jeunes
ont
viennent.
L'habitude de venir.
Voilà, exactement.
Il y a une bibliothèque juste au-dessus, c'est ça?
C'est ça.
Et puis il y a l'EPN.
L'EPN, l'espace public numérique. Et puis aussi, on a marché dans la rue, tout simplement, pour aller à la rencontre des jeunes, pour leur dire qu'est-ce qui se passe pendant les vacances, est-ce que ça les intéresse. Bien évidemment, après, c'est un contact aussi avec les parents, pour un dossier d'inscription et un dossier médical à remplir, comme quoi les parents aussi acceptent que ces jeunes participent aux activités. On est vraiment dans de la coéducation, on implique aussi les parents dans ce que font leurs enfants et leurs jeunes.
D'accord, voilà. Très bien. Et donc là, on va écouter donc le premier interview. Ça a été fait par plusieurs jeunes.
Exactement, ça a été fait par, alors si ma mémoire ne me fait pas défaut, ça a été réalisé par Karima, Abdelak et Sharon, d'ailleurs, qui sont dans les locaux,
qui sont
en train de jouer avec la Maison des Jeux de Touraine. Et effectivement, ils ont interviewé un collègue de Marité, c'est Jonathan Michel, qui s'occupe de l'espace jeunesse au sein de l'espace Jacques Villeray.
Je peux rectifier, ce n'est pas l'espace jeunesse, c'est un point pige.
Un point pige.
point d'information jeunesse, parce que voilà. Donc il va vous expliquer ce que
c'est. Il explique bien mieux,
mais
que moi.
Mais c'est très important, quand même, ce n'est pas tout à fait la même chose.
Et donc, on va écouter donc l'interview de Karima, c'est ça que tu as dit ?
Alors Karima, Abdelak et Sharon.
Abdelak et Sharon.
C'est un travail d'équipe.
Donc on écoute ça tout de suite et on revient juste après.
Bonjour monsieur, pouvez-vous vous présenter ?
Jonathan Michel, donc informateur jeunesse ici au Pige de l'espace Villeray et de l'antenne emploi aussi.
Qu'est-ce que l'espace Villeray ?
Alors c'est un lieu de vie dans le quartier des Fontaines, un lieu de proximité où on regroupe plusieurs services à la population. Donc on a une mairie de quartier, on a un EPN, un point information jeunesse, une antenne emploi, un service de location de salle. Il y a aussi la médiathèque qui se trouve à l'étage, donc vous connaissez aussi. Et donc un lieu de vie dans le hall où généralement les jeunes aussi se rassemblent des fois le week-end ou pendant les vacances scolaires.
Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de travailler à l'espace Villeray ?
Alors j'ai choisi de travailler ici en fait pour être au contact de la population, de pouvoir apporter en fait mon aide et mes connaissances dans ce qui est de l'emploi et de l'information jeunesse afin de pouvoir pas occuper mais fournir des informations et de qualité et des idées aux jeunes du quartier.
Quelle était votre profession avant de travailler à l'espace Jacques Villeray ?
Donc juste avant de travailler ici, je travaillais déjà pour la mairie de Tours et j'étais fossoyeur.
Qu'est-ce qu'un fossoyeur ?
Alors c'est une personne en fait qui s'occupe des cimetières, donc qui s'occupe des enterrements, de l'entretien des cimetières et des exhumations.
Qu'en pensez-vous de l'espace Jacques Villeray ?
Eh bien, je pense que c'est un lieu de vie accueillant et pertinent, justement, dans le quartier des Fontaines.
Est-ce que plusieurs personnes de notre âge, environ 11-13 ans, fréquentent cet espace ?
Alors, je vois assez souvent, justement, des jeunes personnes de votre âge qui viennent ici, surtout, en fait, pour vous connecter aux EPN, pour vous réunir ici aussi, où vous venez souvent devant, ou pour voir quelques animations, ou à la médiathèque.
Qu'est-ce qu'un EPN ?
Espace public numérique, en fait, ce sont des ordinateurs qui sont à disposition du public avec connexion Internet, logiciel de bureautique, imprimante.
Les jeunes, ils en ont quel usage ? Ils font des recherches sur Internet, ils font des CV, ils font quoi exactement dans cet espace public numérique ?
Alors, c'est surtout pour jouer, se connecter à Facebook ou pour pouvoir faire quelques recherches d'images ou de vidéos qui viennent ici.
D'accord. Et c'est gratuit ?
Totalement.
Êtes-vous satisfait de votre travail ?
Oui, totalement. Je trouve que c'est très enrichissant de travailler ici.
Aimez-vous cet espace ?
Ah oui, oui, oui. C'est très accueillant, c'est agréable, c'est convivial. Il y a une très bonne entente. Les gens qu'on reçoit ici sont très agréables, donc oui, totalement.
Pouvez-vous nous présenter l'espace Villeray ?
L'espace jeunesse.
L'espace jeunesse, pardon.
Donc ici, donc dans l'espace Villeray, il y a justement l'espace jeunesse dont j'en ai la garde entre guillemets. Donc en fait, c'est surtout un lieu où vous pouvez trouver des informations sur tout ce qui est orientation scolaire, sortie, culture, santé. Il y a un point aussi que je tiens donc avec tout ce qui est information pour le BAFA. Qui est juste sur le côté. Après, les gens viennent aussi autrement directement me voir à mon bureau pour qu'on ait une information un peu plus personnalisée.
D'accord. Abdelak,
pourquoi avez-vous installé l'espace jeunesse dans l'espace Jacques Villeray ?
Parce que c'était un choix donc de la municipalité, c'est vraiment un lieu qui est tout à fait pertinent parce qu'il est en plein milieu du quartier des Fontaines et il correspond totalement à la notion de service public que veut se donner la mairie.
Quel est votre rôle dans l'espace Villeray ?
Donc je suis ici informateur jeunesse et je m'occupe justement aussi de l'antenne emploi donc pour aider les gens avec tout ce qui est rédaction de CV, lettre de motivation.
Merci d'avoir répondu à nos questions et au revoir.
Merci à vous, bonne journée.
Et donc voilà, c'était l'interview donc de Jonathan Michel, ici, qui avait été réalisée donc dans l'espace Jacques Villeray. On va tout de suite, on va écouter après un autre interview, c'est ça ? Donc de Véronique Cuvier.
Exactement, qui est présidente de l'association des habitants des Fontaines, et c'est Nesrine, Safa et Fétine qui ont réalisé cette interview.
D'accord. Et donc, on était en train de dire qu'on allait écouter une interview donc réalisée par, je ne sais plus les prénoms.
Alors, Nesrine, Safa et Fétine, qui ont interviewé Véronique Cuvier, donc la présidente de l'AHDF, qui signifie Association des habitants des Fontaines, qui sont présents ce soir
ici,
exactement, ouais. À l'espace Jacques Villeray, qui propose une petite restauration sur place, 50 centimes la crêpe et 1 euro le croque-monsieur, yes. Entre 19h et 20h, de se remplir un peu le ventre avant d'assister à la projection du film Belle et Sébastien de Nicolas Vanni.
Bonjour madame, comment vous vous appelez ?
Je m'appelle Véronique Cuvier.
Merci. Ça fait combien de temps que vous habitez aux Fontaines ?
J'habite depuis 40 ans sur le quartier des Fontaines.
Quel est votre rôle au sein de l'association de l'AHDF, l'association des habitants du quartier des Fontaines ?
Je suis présidente de l'association des habitants des Fontaines.
Depuis combien de temps existe l'association ?
Depuis 1994.
Pouvez-vous nous la présenter ?
Eh bien, c'est une association que nous avons montée en 1994 suite à certains événements sur le quartier. Et pour mieux se faire entendre ou se faire connaître, nous sommes mis en association. Nous avons pu travailler avec la mairie, avec les bailleurs sociaux, avec les travailleurs sociaux, avec les habitants et améliorer la vie sur le quartier. Nous avons aussi préparé à ce sujet-là des manifestations parce qu'on s'est rendu compte très vite que sur le quartier, il n'y avait pas grand-chose. Donc, c'est nous qui avons fait le premier vide-grenier, des lotos, repas de Noël, la bourse aux jouets. Et on travaille aussi, on a travaillé avec le Secours Populaire. On a emmené des enfants au bord de la mer. On travaille aussi avec les autres associations. Voilà, avec tous les partenaires qu'il y a sur le quartier, on travaille.
Moi, j'ai une petite question. Vous parliez, en 94, il y a eu des incidents sur le quartier. Quels avaient été ces incidents ?
Eh bien, c'était plutôt des jeunes qui se rassemblaient où il y avait des soucis. Et fallait ces jeunes, il semblait qu'ils étaient un peu oubliés dans notre quartier. Et donc, c'était une façon aussi de les aider et d'aider aussi les habitants qui ne pouvaient plus vivre dans les conditions que les habitants vivaient actuellement.
Alors, si j'ai bien compris, donc la HDF, l'Association des habitants des Fontaines, c'est beaucoup d'actions à destination de la population. Par exemple, vous avez des événements à venir là bientôt qui sera important de communiquer aux auditeurs ?
Oui, bien sûr. Nous organisons une bourse aux jouets dans 2 semaines dans les locaux de la HDF. Donc, le vendredi, ce sera le dépôt. Le samedi, le dimanche, la vente. Et le lundi, la reprise. Donc, voilà, c'est une bourse aux jouets et puériculture que nous organisons et qui est ouverte à tous, aux habitants du quartier des Fontaines, mais aussi aux habitants de la ville, des communes environnantes.
Alors, vous parlez des locaux. Ils sont où, ces locaux de l'Association des habitants des Fontaines ?
4 allées Monteverdi.
4 allées Monteverdi. Effectivement, aujourd'hui, on est dans ces locaux du 4 allées Monteverdi. Depuis 1994, vous avez ce local ou vous étiez ailleurs avant ?
On avait un tout petit local, mais vraiment un petit local pendant 1 ou 2 ans. Et on a eu très vite ces locaux-là que l'on partage avec d'autres associations.
Lesquelles associations ?
Alors, nous avons Investière, qui est ouverte tous les mercredis, bien sûr. Et nous accueillons actuellement d'autres associations, c'est-à-dire une association sur la mémoire. Nous avons l'APF qui vient tous les mardis dans les locaux, les Paralysés de France. Et puis, nous allons accueillir d'autres associations par la suite.
Il y avait Sharon également qui avait une question pour vous.
Pourquoi avez-vous supprimé le porte-plume ?
Alors, le porte-plume, c'était pas nous, c'était une association. Et pour des raisons diverses, je ne peux pas trop en parler. Donc, c'est l'association qui a décidé d'arrêter aujourd'hui le porte-plume. Et c'est vrai que c'est un manque important sur notre quartier.
D'accord. Là, donc, on voit bien, la HDF travaille avec beaucoup d'autres associations en partenariat. Actuellement, c'est combien de personnes qui sont adhérentes à l'association des habitants des Fontaines ?
Actuellement à peu près entre 30 et 40.
Entre 30 et 40 personnes.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous dire combien il y a d'habitants sur les Fontaines ? Est-ce que ça, vous êtes en mesure de nous le dire ?
6 000 habitants. Je crois pas loin de 6 000 habitants.
D'accord. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est une association qui est connue par les habitants ?
Oui, c'est une association qui est connue, mais il faut savoir qu'on a un quartier qui est divisé en 4. On a différents bailleurs, donc nous avons Tour Habitat, nous avons la Sémévite, nous avons les copropriétaires, et donc aujourd'hui, le quartier, on dirait que le quartier est divisé en 4, et c'est très difficile d'amener les gens du bout du quartier des Fontaines vers Tour Habitat, et voilà.
Sharon ?
Est-ce que votre association a été aidée par la mairie de Tours ?
Oui, nous touchons des subventions par la mairie de Tours. L'année dernière, nous n'avons pas eu de subvention. Cette année, on en a eu un petit peu et c'est pourquoi c'est très dur aujourd'hui en tant qu'association de pouvoir faire d'autres activités. L'année dernière, nous n'avons pas pu faire de loto comme nous faisions parce que nous n'avions pas les subventions. Cette année, nous avons eu des subventions mais qui couvrent que les frais, les charges, parce que nous payons des charges locatives plus les assurances. Donc, on n'a pas d'argent. Il nous faut de l'argent pour pouvoir poursuivre ces activités.
Une autre question.
Est-ce que ce quartier vous plaît?
Bien sûr, ce quartier me plaît. Mes enfants grandissent sur ce quartier. Il y a plein de souvenirs. On a un très beau quartier avec de la verdure, avec énormément de choses. On a la mairie à disposition. On a la bibliothèque. Enfin, on est près de la ville aussi. Et donc, et puis on a des amis. On a énormément de gens que l'on connaît sur ce quartier. Des amis. C'est un très beau quartier, le quartier des Fontaines.
D'accord. Qu'avez-vous vu évoluer au sein de ce quartier en 40 ans?
Alors, en 40 ans, ce qu'on a vu évoluer, la mixité sociale et culturelle, énormément. Et puis aussi, de la pauvreté, des gens de plus en plus pauvres, et puis une population vieillissante aussi.
Sharon,
avez-vous un autre projet pour les Fontaines?
Alors, quel serait un projet fou pour les Fontaines? Si on vous donnait une baguette magique.
Alors là, dans l'immédiat, franchement, je ne sais pas. Un projet que ce qu'on voudrait aujourd'hui, c'est vraiment travailler avec toutes les associations et ensemble pouvoir faire de belles choses. Parce que individuellement, tout seul, les petites associations actuellement ne peuvent pas. Et on aimerait que les habitants soient beaucoup plus à nos côtés et s'appliquent beaucoup plus à nos côtés, aussi bien les anciens que les jeunes, parce que actuellement on manque de jeunes.
Alors imaginons. Je suis jeune, j'entends l'interview. Comment je fais pour contacter la HDF?
Eh bien, alors, nous sommes ouverts tous les matins, à partir de 9h jusqu'à 10h30, tous les matins, du lundi au vendredi. Donc, on peut venir nous rencontrer, on peut venir discuter avec nous. Il n'y a aucun souci.
Merci d'avoir répondu à notre question.
C'était l'entretien de Véronique Cuvier. Et donc tout de suite, on écoute à nouveau un interview que les jeunes ont réalisé avec Corinne Woulfou. Bon, elle se présentera, mais du coup, les jeunes, c'était qui sur cette interview-là?
Alors, j'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que c'était Irina, Sharon et Abdelak. Alors, il faut savoir que toutes ces associations nous ont reçus dans leur locaux. Et c'était plutôt
intéressant. Chez eux, quoi.
Ouais, chez eux, exactement. Donc c'était plutôt intéressant aussi parce que les jeunes allaient vers... C'est que nous, on occupe un local ici aux Fontaines qui se trouve 7 place Johann Strauss. Mais là, les jeunes allaient...
Ils sont vraiment entrés dans l'univers de l'association.
Exactement.
Et s'imprégnaient du milieu, quoi.
C'est ça. Donc déjà, ils ont identifié les lieux aussi, parce qu'on voit que c'est à côté de chez eux, mais pourtant, ils ne connaissaient pas du tout l'existence de cette association. Donc ça, c'était
ils
plutôt intéressant.
Ils s'approprient plus leur quartier, peut-être, maintenant, du coup, grâce à ça, quoi.
Bah, j'espère.
J'espère, on verra par la suite.
En tout cas, c'était un peu l'objectif pédagogique et éducatif qu'il y avait derrière. Après, comme tout, je ne suis pas sûre qu'on puisse se mesurer dans l'immédiat, mais peut-être que dans 5-10 ans, voilà, quand ils approcheront la vingtaine ou la trentaine, bah, ils auront envie de s'investir et puis
ils se souviendront.
En tout cas, ils auront identifié là où se trouve l'association. Puis, c'est vrai que pour nous, c'était important aussi d'interviewer toutes ces associations parce que quand la Ligue est arrivée pour mettre en place ce projet, passer par les acteurs locaux, passer par les associations sportives, culturelles, sociales, ça nous permet aussi d'avoir une meilleure implantation dans le quartier. Et ça, c'était pas négligeable. Enfin, moi, ça me paraissait essentiel de faire avec eux. Déjà, c'est des relais d'information. Ils connaissent la population. Donc pour nous, c'était indispensable, voilà, encore une fois, de passer par tous ces acteurs locaux.
C'était quand même intéressant, excuse-moi, je te coupe, mais d'interviewer Véronique Cuvier, donc de l'association des habitants des Fontaines, parce que du coup, eux-mêmes, peut-être que ça leur donnera une autre image de. Enfin, qu'il se passe des choses dans leur quartier, beaucoup plus que ce qu'ils imaginent peut-être. Et puis voilà, ils savent qu'il y a des choses qui sont faites et des associations qui sont là aussi, quoi.
Tout à fait. Et puis surtout, on voit qu'ils ont connaissance des actions, mais pas forcément de qui est derrière.
Voilà, qui fait quoi.
Voilà. Puis
maintenant, peut-être qu'ils, quand ils croiseront Madame Cuvier dans la rue, ils la reconnaîtront et ils sauront qui elle est.
C'est ça.
Super.
C'était aussi effectivement des jolies rencontres intergénérationnelles, ces interviews. Donc maintenant, on va écouter effectivement Corinne Woulfou, si je ne me trompe pas. Je me suis trompée, c'est même par un W.
D'accord.
Alors, qui est présidente du comité de quartier.
Ok. Et donc, on écoute ça, puis on revient tout de suite sur Radio Campus.
Bonjour, Madame Woulfou. Quelle est votre fonction au sein du comité de quartier?
Alors, ma fonction, je suis présidente du comité de quartier des Fontaines depuis maintenant un an. Je suis là dans ce comité pour faire revivre le quartier, notamment les habitants, leur donner de la convivialité, leur donner beaucoup de souffle au cœur, et puis d'être réunis ensemble pour pouvoir faire beaucoup de choses.
Depuis quand existe le comité de quartier ?
Réponse, très bonne question, je ne peux pas y répondre, car il n'y a pas longtemps que je suis ici, sur la Touraine, moi. Donc, faudrait demander à M. Chapeau, qui est là depuis X années, qui pourrait me donner la réponse. Je la saurai ce soir, d'accord, la réponse.
Qu'est-ce qu'un comité de quartier ? À quoi ça sert ?
Un comité de quartier, ça sert à réunir justement tous les habitants, de se faire connaître, de les faire rentrer déjà, parce que c'est pas évident, de leur expliquer à quoi on sert, c'est-à-dire à leur proposer des animations, des sorties, des conversations, des jeux, et puis pourquoi pas des voyages. On est en train justement en ce moment de rechercher d'autres buts et d'écouter, d'être à leur écoute surtout pour leur demander ce qu'ils souhaitent. C'est pas à nous de leur imposer, c'est à eux de nous donner leurs avis sur ce qu'ils veulent faire.
Depuis quand vivez-vous dans le quartier ?
Depuis 4 ans exactement, car j'étais dans la région parisienne avant.
Quelle est votre vision du quartier ?
La vision du quartier, il y a beaucoup de choses à voir. Parce que j'ai un côté où il y a des personnes âgées, l'autre côté, il y a beaucoup de jeunesse. Donc, il faut essayer d'intégrer tout le monde. Il faut essayer que la porte, justement, qui doit s'ouvrir, elle soit ouverte pour tout le monde. C'est ce que j'essaie de faire.
Avez-vous évolué le quartier ? Avez-vous vu évoluer le quartier ?
Depuis un an où je suis là, évoluer, c'est peut-être aux élus de le dire, aux habitants de le dire, on essaie de le faire évoluer. Maintenant, oui, je pense que c'est une question à leur poser à eux plutôt qu'à moi, même si on a fait beaucoup d'efforts.
Est-ce que vous aimez votre quartier ?
Ah, beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Qu'est-ce que vous aimez ?
Les gens, les personnes, tous ceux qui franchissent chez nous, qui viennent chez nous, les gens qui viennent nous parler, les jeunes qui viennent cogner à la porte, les gens qui viennent jouer, tout le monde, j'aime bien. C'est la société que j'aime.
Combien d'habitants font partie du comité de quartier ?
Ici, d'après M. Allais et Mme Claire, je crois qu'il y a 7700 habitants sur les Fontaines.
Est-ce que beaucoup de jeunes de notre âge fréquentent le comité de quartier ?
Pas suffisamment, hélas. C'est ce que je regrette. J'espère qu'il y aura une ouverture d'ici peu. C'est ce qu'on essaie de faire avec la mairie, avec vous également, je crois. Il faut justement que ces jeunes y viennent un peu plus chez nous.
Pourquoi avez-vous souhaité vous engager aux soins du comité de quartier ?
Parce que j'avais une profession déjà j'étais infirmière psychologue en fin de vie et j'ai toujours fait énormément de bénévolat, et j'ai continué toute ma vie à en faire sur Paris, en Charente, partout, et me vouer aux gens, c'est ma priorité. Je pourrais pas faire autre chose de toute façon.
Où se trouve le local du comité de quartier ?
Alors, 3 rue Charles Garnier, où vous êtes là, ici.
Si certains habitants souhaitent vous rejoindre, quelles sont vos coordonnées ?
Je leur donne à tous mes cartes de visite. Ils ont mes coordonnées à la maison, ils ont mes coordonnées rue 3 rue Charles Garnier. Ils savent tous me joindre, j'ai des coups de téléphone à la maison, j'ai mon adresse mail et ça n'arrête pas.
Merci d'avoir répondu à nos questions et bonne chance.
Au plaisir de vous retrouver tous. J'espère vous revoir très bientôt chez nous. Hein, même plus nombreux. Mais merci à vous.
Et voilà, donc c'était l'interview de Corinne Wolfow, et donc qui s'occupe du comité de quartier des Fontaines. Et donc on va tout de suite recevoir dans l'émission Estelle Cassé, qui fait partie de l'association des paralysés de France et qui viendra nous présenter aussi le projet de jardin partagé. Mais avant ça, on va écouter un nouvel interview des jeunes avec qui ont interviewé Madame Delarue de l'association Le Vestiaire. Et donc on écoute ça tout de suite, et Alexandra viendra nous en reparler juste après. Et on revient tout de suite sur Radio Campus.
Bonjour Madame Delarue, quelle est votre fonction au sein du Vestiaire ? Eh bien, au sein du vestiaire, je suis la personne qui a créé le vestiaire, déjà, hein, qui n'en a pas eu l'idée. C'est pas moi qui en ai eu l'idée, c'est deux habitantes du quartier qui voyaient qu'il y avait beaucoup de vêtements jetés et qu'il y avait beaucoup de personnes qui manquaient, justement, de vêtements. Mais bon, il fallait quand même que quelqu'un prenne le projet à bras-le-corps. Et puis un jour, j'ai décidé avec Madame Cuvier qu'on allait installer un vestiaire dans ces lieux-là qui étaient des lieux connus. Au début, on a commencé très petit, avec une table et quelques vêtements. Maintenant, on a trois pièces qu'on remplit tous les mercredis. Alors, mon rôle, c'est surtout un rôle de coordination. Je pourrais dire qu'il n'y a pas de présidente. Hein, c'est, tout le monde fait ce qu'il pense pouvoir faire, mais c'est quand même moi qui coordonne toutes les actions.
Depuis combien de temps est fondée l'association du vestiaire ?
Il y a eu 11 ans au mois d'octobre.
Pouvez-vous nous présenter le vestiaire ? À quoi sert-il ?
Alors, le vestiaire, on récupère des vêtements gratuits. Enfin, les gens nous les donnent gratuitement. Ce sont des vêtements dont ils n'ont plus l'utilité. Et ces vêtements, ils nous les donnent. On les trie tous les lundis, on trie les vêtements, c'est-à-dire vêtements d'été, vêtements d'hiver, vêtements d'enfants, vêtements d'adultes. Ceux qui sont en mauvais état, on le met dans des sacs et c'est redonné au relais, une association qui fait des isolants avec, ils les broient et ils font des isolants. C'est le but du vestiaire. Et à quoi ça sert ? On récupère de l'argent puisque l'on vend les vêtements à tout petit prix. Et cet argent qu'on récupère, il sert pour des buts très sociaux dans le quartier. Notre priorité, ce sont les écoles. Peut-être que vous avez su, toutes les écoles du quartier. Avant, on aidait pour les classes vertes. Maintenant, il n'y en a plus. Alors maintenant, on donne de l'argent pour les sorties pédagogiques, pour éviter que les parents aient trop à donner, et puis pour permettre aux enfants quand même de faire des sorties, que tout le monde, tous les enfants, toutes les classes puissent participer à ces activités. C'est notre priorité, les écoles. Dans les petites écoles maternelles, comme il n'y a pas de sorties pédagogiques, d'abord, vous pourrez voir, il y a une affiche à l'extérieur. On a acheté des jolis petits meubles colorés qui sont plus attrayants pour les petits que des meubles en bois brut. Et aussi, on donne tous les ans à la maison de retraite. Vous savez qu'il y a une maison de retraite dans le quartier. À cette maison de retraite, on fait un ballotin de chocolat par résident. Donc, on fait 125 ballotins de chocolat. On fait un petit cadeau individuel. L'année dernière, on leur a offert une bouteille d'eau de Cologne à chaque résident. Ou parfois, on fait un cadeau pour tout le monde. Là, il y a deux ans, l'équipe d'animation a voulu acheter une Wii. Alors moi, j'y connais rien, je vous le dis tout de suite. On a acheté une Wii et quelqu'un a choisi c'est des jeux, hein.
Ouais.
En rapport à l'âge des personnes, mais qui aussi leur permet de faire un petit peu travailler leur ménage, hein, comme on demande aux enfants. Voilà le but du vestiaire. Et puis on aide aussi très ponctuellement, dans des cas qui peuvent être très divers. Hein. Ça peut aller, par exemple, d'aider une grand-mère à payer le vétérinaire pour son chien parce qu'elle ne mangerait pas pour pouvoir faire soigner sa bête. On a aussi une fois payé à une perruque, à une dame jeune qui avait été soignée d'un cancer et qui n'avait plus de cheveux. Et chaque décès dans le quartier, comme maintenant on n'offre plus des fleurs, on donne une somme d'argent pour les familles en difficulté. Enfin, pour les familles, pour leur faire voir qu'il y a quelqu'un dans le quartier qui s'occupe d'eux.
Où se trouve le vestiaire ?
Alors là, ici, dans ces lieux-là, pour l'instant, ça doit être le 4 allée Monteverdi. Mais on espère, en début d'année prochaine, d'avoir un local en face qui nous appartiendra. Parce que là, vous avez remarqué que ça ne nous appartient pas. Et tous les mercredis, on est obligé d'installer tous les vêtements dans les trois pièces. Et tous les mercredis soirs, on est obligé de les ranger. Et on n'est que 3-4 personnes à le faire et que des personnes qui ont plus de 75 ans.
Pourquoi avez-vous eu l'envie de vous engager dans cette association ?
Eh bien, pour aider les familles en grande difficulté, pour les permettre de s'habiller avec des vêtements de qualité, et puis bon, à des tout petits prix.
Quelle a été votre profession ?
Alors, moi, j'ai été secrétaire dans un cabinet juridique. Et ensuite, mon mari était boulanger. Donc, on a pris une boulangerie. Pendant 25 ans, j'ai tenu la boulangerie dans un vieux quartier de la ville de Tours. Et après, bah, c'était la retraite. Mais j'ai gardé des enfants aussi. Entre le moment où j'ai laissé la boulangerie et le moment où je suis venue habiter ce quartier, je gardais des enfants au début de l'aide sociale à l'enfance. Et ensuite, à un certain âge, on est obligé d'arrêter, j'ai gardé des enfants de la crèche de l'hôpital. Donc je connais très bien les enfants.
Depuis combien de temps habitez-vous dans le quartier ?
36 ans.
Qu'avez-vous vu évoluer dans le quartier ?
Alors, vu évoluer... Bah, d'abord, quand je suis arrivée, il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'école. Il n'y avait pas de mairie. Il n'y avait pas d'église. Il n'y avait pas de poste. Il n'y avait pas de banque. J'ai vu où s'ouvrir les premières... les écoles, les premières écoles. Et puis, bon, s'installer la poste. Au fur et à mesure, ça s'installait. Mais au début, c'est pour ça que beaucoup de personnes n'étaient pas motivées. Il n'y avait pas de bus. Il fallait aller les prendre à Verdun. Beaucoup de personnes n'étaient pas motivées pour venir habiter dans ce quartier. Puis j'ai vu quand même finir des HLM, se créer la maison de retraite, la crèche, tout ce que vous pouvez avoir maintenant à disposition qui vous paraissent peut-être évidents, mais qui étaient quand même très difficiles au début.
Aimez-vous ce quartier ?
Ah, oui, beaucoup.
Pourquoi ? Qu'est-ce que vous aimez ?
Pourquoi ? Eh bien, je peux vous dire que quand je suis venue habiter là, je venais du quartier, du Vieux Tour, les Halles et le Vieux Tour. C'était un quartier, d'habitation particulière. Il n'y avait pas d'HLM. C'était un quartier très convivial. Tout le monde se connaissait. Quand je suis arrivée là, j'ai dit à mon mari, c'était intermédiaire, on attendait pour acheter une maison. Et je me suis dit, je ne resterai pas, parce que d'abord, il n'y a rien à visiter dans ce quartier, tous les Porsches se ressemblent, que vous alliez chez un ou chez l'autre, c'est tous les mêmes Porsches. Ça n'attirera pas les touristes, il ne faut pas se faire d'illusions. Mais j'ai rencontré beaucoup de personnes qui avaient envie justement de faire vivre ce quartier. Et puis maintenant, je m'y plais beaucoup. Alors, j'ai une maison. On a quand même trouvé une maison achetée à Beaujardin, mais je ne l'habite pas. Je suis restée dans mon HLM.
Pourquoi avez-vous souhaité de vous engager au sein de cette association ?
Pour aider les autres.
Merci d'avoir répondu à nos questions. Au revoir.
C'est gentil. Merci. Voilà.
C'était l'interview de Madame Delarue. Et donc, je vous avais annoncé la présence d'Estelle Cassé avec nous.
Bonsoir.
On vous reçoit ce soir pour présenter l'association APF. Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu ce que c'est ?
Alors, l'APF, c'est l'Association des paralysés de France. Elle représente donc les personnes handicapées motrices. Et elle mène un combat depuis de longue date sur la défense des droits des personnes handicapées et l'accès à tout pour tous. Pour que chaque personne en situation de handicap puisse accéder à tout comme une personne valide. Voilà.
D'accord. Alors l'APF est présente sur le territoire, sur le quartier des Fontaines.
Oui.
Et pour quelle raison ?
Alors l'APF, elle est présente sur le quartier des Fontaines parce que nous, donc moi je suis éducatrice auprès d'un service, donc le service un service d'accompagnement à la vie sociale. Donc de l'association des paralysés de France, et on a une mission aussi logement au sein de ce service, Et sur le quartier des Fontaines, on a relogé beaucoup de personnes en situation de handicap, puisqu'il y a des logements qui ont été adaptés, puisqu'on travaille avec Tour Habitat sur l'adaptation des logements pour ces personnes. Et c'est vrai qu'on a donc à peu près 50 personnes sur le quartier des Fontaines, notamment 3-4 places de Jeanne Labiche, logées donc sur, ces deux bâtiments. Voilà, et du coup, on s'est dit, puisque ces personnes sont logées, il faut aussi qu'on travaille sur le lien social et aider toutes ces personnes à s'intégrer dans le quartier. Voilà.
Est-ce que ça veut dire que le quartier des Fontaines est, on va dire, aménagé de manière à accueillir des personnes en situation d'handicap ? Alors, les logements, ça j'ai bien compris, mais la voie publique également ?
Alors, ça a été travaillé aussi, donc c'est aussi toujours en cours, hein, puisqu'il y a des habitants aussi qui se rapprochent des services de la mairie pour pouvoir travailler là-dessus. Nous, on veille à ce que ça soit accessible, hein, on est toujours assez attentif par rapport à ça. Après, il y a toujours du travail, mais oui, c'est relativement bien adapté et beaucoup de personnes en fauteuil peuvent accéder assez facilement aux alentours des immeubles, mais aussi au petit supermarché qui n'est pas très loin et puis au centre commercial qui n'est pas très loin avec l'ensemble des commerces.
D'accord. Si on a souhaité vous inviter ce soir, c'est que la Ligue d'enseignement étant présente cet été, on a réalisé ensemble un travail partenarial autour d'un jardin partagé qui se situe Square Berthe Morisot. Vous avez été, alors je ne sais pas si vous avez été à l'initiative de ce projet, en tout cas pour sûr vous avez aidé à la mise en place de ce projet. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu comment est née la création de ce jardin partagé ?
Oui, alors c'est dans la continuité de ce que je vous disais tout à l'heure, on travaille sur le lien social pour les personnes en situation de handicap sur le quartier, et c'est de là qu'a émergé ce projet de jardin partagé. Square Berthe Morisot, avant il y avait une fontaine, Tour Habitat souhaitait donc enlever cette fontaine, qui coûtait cher en entretien, mais aussi qui pouvait être dangereuse pour les enfants. Et pour le coup, ils nous ont proposé de pouvoir bénéficier de la mise en place d'un jardin partagé. Square Berthe Morisot. Donc nous, on a travaillé ce projet-là avec Léo Lagrange à l'époque, et puis nous et la Maison départementale de la solidarité, avec d'autres associations aussi autour. Donc nous, l'APF, effectivement, nous avons porté ce projet, puisque Léo Lagrange après a disparu, en tout cas pour la partie adulte, et on a continué à porter ce projet. Et maintenant, depuis un an, il y a un groupe d'habitants, donc de 15 habitants, qui est très investi sur le projet, qui vient très régulièrement. Donc on se réunit tous les mardis après-midi au jardin. Et une fois par mois, on fait une réunion pour organiser un petit peu la continuité de ce jardin et puis voir ce qu'on plante, ce qu'on a récolté, ce qui ne va pas, comment on arrose, les rencontres qu'on a envie de faire. Et effectivement, cet été, on avait travaillé ensemble et organisé l'intervention donc, de l'association La Folle avec les enfants autour d'une activité entre les habitants et les enfants.
Exactement. Voilà. Et tu étais... t'étais pas présente, mais tes collègues, exactement, étaient présentes. Est-ce que tu as eu des échos ? Comment ça s'est passé entre les habitants et ces jeunes, ces enfants ?
Alors moi, mes deux collègues étaient présentes, on avait fait le relais ensemble, elles ont eu une super expérience, elles étaient très contentes. Il y a eu beaucoup de photos de fête et les habitants ont fait un retour très positif de cette intervention. En tout cas, pour le coup, on souhaiterait poursuivre avec vous, en espérant que ça puisse se faire pour sur l'année 2016.
Tout à fait.
Et puis, on a aussi interpellé Léo Lagrange, en tout cas le service Petite Enfance, pour pouvoir faire un projet commun sur les vacances 2016. Vraiment réaliser ensemble un projet habitants et Petite Enfance, enfants en tout cas, ou jeunes.
Bien sûr.
Voilà.
Alors, ce jardin se trouve effectivement Square Berthe Morisot. Est-ce que, Stelle, tu peux un petit peu décrire ce jardin ? À quoi il ressemble ?
Donc c'est un jardin où il n'y a pas que du verre, hein, il y a un peu de béton pour permettre aussi aux gens en fauteuil de pouvoir y circuler. C'est un jardin qui est complètement ouvert, il n'est jamais fermé à clé, il est accessible à tous, à tout moment. Nous on s'y retrouve tous les mardis après-midi quand il fait beau avec les habitants qui ont l'habitude de venir. Moi je suis présente tous les mardis après-midi aussi. Quand il ne fait pas beau, on se retrouve dans la salle de l'Association des habitants des Fontaines. Madame Cuvier nous a mis à disposition très gentiment tous les mardis après-midi. Et la réunion se fait là-bas aussi, une fois par mois. Et après, chacun peut venir nous y rejoindre quand il le souhaite, ou même y rentrer tout seul. Hein. Il y a des gens qui y vont le soir, des jeunes y vont le soir. Il y a des personnes qui vont le week-end juste pour flâner, pour ramener une fleur, pour arroser, pour décorer, enfin, ou juste pour se reposer ou pique-niquer. Il y a eu des pique-niques de feuilles cet été.
D'accord.
Donc, il est vraiment ouvert à tout le monde. C'est le jardin des habitants.
Ok. Et là, c'est vrai que le pari, j'ai pas envie de dire le risque, hein, mais bien le pari, c'est de permettre que ce jardin reste accessible et ouvert. Au départ, il y avait des craintes, le fait que le jardin soit ouvert constamment.
Alors, il y a eu des craintes, oui, des craintes de détérioration. Et on est tous très contents parce qu'il n'y a vraiment eu aucune détérioration. Le jardin est bien respecté. J'en remercie tout le monde, d'ailleurs, parce que c'est au plaisir de tous. Et oui, des craintes. Et puis aussi par rapport à l'investissement, parce que ce n'est pas toujours facile. La fontaine qui a été détruite, ça n'a pas été facile pour tout le monde d'accepter. Hein, ça a changé le paysage. Et puis quand on est attaché aussi à son quartier, ce n'est pas facile de le voir changer. J'espère en tout cas que les gens apprécieront. Et puis viendront aussi au jardin. Il n'y a vraiment pas nécessité de s'engager. On vient quand on veut. Et c'est toujours dans un souci de lien social et de partage. Voilà. C'était aussi pour permettre une solidarité entre les habitants, parce qu'il y a des personnes qui vieillissent, qui sont très isolées. Et le but aussi, c'est qu'on puisse avoir une veille par rapport à l'ensemble de ses habitants. Et ça a l'air de plutôt bien marcher.
Bien sûr. Alors, je peux parler au nom de la Ligue. C'est que cet été, les enfants, les jeunes qui ont réalisé des activités au sein du jardin, ils ont réalisé des petites plaques sur des ardoises. Vous avez inscrit, il me semble, le nom des plantes, le nom des légumes. Puis également, ils ont réalisé des pots très colorés qui sont toujours, d'ailleurs, dans le jardin. Donc, ce qui fait plaisir aussi aux enfants de voir que ce qu'ils ont réalisé est toujours présent au sein du jardin partagé. Et c'est vrai que nous, la Ligue, quand on est arrivé sur le quartier, les enfants instinctivement nous ont fait la visite, nous ont fait rentrer dans le jardin et nous ont montré parce que comment il était fait, comme quoi c'était accessible aussi pour arroser, enfin qu'il y avait une cabane avec un cadenas, mais qu'on pouvait venir sur certains moments pour arroser le jardin. Enfin, on voyait bien qu'ils avaient quand même une connaissance et un début d'appropriation aussi de ce lieu qui se trouve en bas de chez eux.
Voilà, et donc les habitants essaient aussi de sensibiliser les enfants. C'est vrai que quand il y a des enfants tout seuls, on essaie aussi de travailler avec eux pour qu'ils comprennent un petit peu comment ça fonctionne. Alors c'est vrai qu'il y a la cabane avec le cadenas parce que le matériel doit être aussi un peu protégé. Et donc les habitants sont tout à fait prêts à accueillir les enfants pour leur expliquer un petit peu comment ça fonctionne et arroser avec eux. Après, quand il y a des parents qui viennent avec les enfants, c'est pareil, ils peuvent arroser avec leurs enfants. Le but, c'est vraiment que chacun puisse y trouver sa place et que les enfants soient bien sensibilisés. Les petits pots, les habitants, ils tiennent. Ils sont très contents qu'il y ait ces petits pots. En plus, ça met plein de couleurs dans le jardin. C'est super sympa. Et on espère qu'il y aura plein d'autres choses. Hein.
Bien sûr.
Toujours un travail intergénérationnel. C'est vraiment super, tout ce que vous faites.
Voilà.
Estelle, merci beaucoup d'avoir répondu présente à notre invitation. Mathilde, je propose qu'on continue cette émission.
On continue, oui,
avec...
tout à fait.
Merci.
Oui, merci d'être venu nous voir.
Alors,
Donc, on va écouter une nouvelle interview faite par les enfants. À
tout à fait.
Donc, celui de Barbara.
Exactement.
De CID.
Alors, Barbara, elle est juriste, en fait, au Centre d'information des droits des femmes et des familles, qui est également implanté sur le...
Quartier.
Exactement, quartier des Fontaines, place Johann Strauss. Je vous propose d'écouter, on se retrouve dans un instant.
Bonjour madame, comment vous appelez ?
Donc, je m'appelle Barbara.
Quel est votre rôle au sein de l'association CIDFF, Centre d'information des droits des femmes et des familles ?
Donc, je suis juriste au sein de l'association, c'est-à-dire que j'apporte une information juridique aux gens qui viennent nous voir à l'association.
Aidez-vous uniquement des femmes et des familles des Fontaines ?
Alors non, on n'aide pas que les femmes et les familles des Fontaines. On aide toutes les personnes qui viennent nous voir au sein de l'association. Ça peut être de Tours, mais également tous les environs de Tours. Il faut savoir que nous, à l'association, on a aussi des permanences, c'est-à-dire qu'on va dans d'autres sites hein, de façon à ce que tout le monde puisse avoir accès à l'information. On va à Chinon, on va à Amboise, on va également au Sanitas, on va à Jouy-les-Tours... Et on va à Mont-Louis. Donc on essaye d'intervenir un petit peu partout de façon à ce que tout le monde puisse venir nous voir, principalement des femmes et des familles, mais également des adultes, des grands-parents. Ça peut être un petit peu tout le monde.
Depuis combien de temps l'association a été fondée et par qui ?
Alors, l'association, elle a été créée en 1972 à Paris, puisque effectivement, nous ici, c'est le centre d'information du droit des femmes et des familles, mais on a une agence qui est nationale. C'est le Centre national d'information du droit des femmes et des familles. Donc ça a été créé en 1972 à Paris, mais à Tours, ça a été créé en 1985 par Madame Henriette Fouchier.
Pouvez-vous nous présenter l'association ?
Alors, au sein de l'association, donc effectivement, le Centre d'information du droit des femmes et des familles, donc on a plusieurs rôles. Le premier rôle, c'est ce qu'on appelle l'accès au droit. C'est-à-dire que toutes les personnes qui viennent nous voir viennent nous poser des questions en rapport avec la loi, des questions juridiques, principalement en droit de la famille, et donc on doit les aider. Donc effectivement, ça va être des questions sur le divorce, sur des séparations, pour savoir comment on fait avec les enfants, comment on fait pour se séparer de telle ou telle personne. Mais on fait également du droit pénal aussi. Donc toutes les personnes qui viennent nous voir pour des faits de violence, notamment des femmes qui sont victimes de violences et qui auraient besoin d'informations et de conseils pour s'en sortir et puis pour avoir des pistes pour les aider.
Sakina.
Mais par exemple, il se passe quoi quand une femme, elle se fait battre et elle vient vous voir, vous êtes censé faire quoi ?
Alors, nous, on va lui apporter des conseils au niveau de la loi. Donc, effectivement, sur qu'est-ce qu'elle peut faire au niveau de la loi. On peut lui dire d'aller porter plainte. On va lui dire où est-ce qu'il faut qu'elle aille pour continuer ses actions. Ça peut être aller au commissariat ou à la gendarmerie. Ça peut également saisir le tribunal correctionnel, mais également le juge aux affaires familiales, pour peut-être faire une mesure de protection, l'ordonnance de protection pour la mettre en sécurité. Donc ça, c'est tout ce qu'on peut voir. Au sein de l'association, on a également un protocole logement, c'est-à-dire les personnes qui sont victimes de violences conjugales, les femmes qui sont victimes, on peut leur attribuer, nous on leur attribue pas, mais on a des liens pour qu'elles aient des hébergements en urgence. On peut aussi les diriger vers différentes autres associations, comme l'entraide ouvrière qui vient nous aider, qui vient un petit peu nous aider dans ce domaine-là.
Sakina.
Et c'est possible qu'il y ait des enfants qui sont battus par leurs parents qui viennent vous voir ?
Alors oui, c'est possible. Effectivement, il y a des enfants qui viennent nous voir, puisque souvent, quand une femme est battue, ça arrive également que les enfants soient aussi victimes de violences. Donc dans ces cas-là, les enfants peuvent venir nous en rendez-vous, mais moi en tant que juriste, j'apporte pas une information juridique. Mais il y a quelqu'un au sein de l'association qui est une psychologue spécialisée pour les violences sur les enfants ou les enfants qui sont témoins de violences, des violences entre leurs parents. Et donc cette psychologue-là reçoit les enfants et peut les aider dans ce qu'ils vivent au quotidien.
Donc si je comprends bien, une juriste, une psychologue, vous êtes combien de salariés ?
Alors, nous, au sein de l'association, donc effectivement, il y a la directrice, Madame Karima Bellamine, il y a une assistante de gestion, on est deux juristes, moi et ma collègue, et on a deux psychologues, une psychologue pour adultes et une psychologue pour enfants. La psychologue pour adultes, donc elle n'intervient pas uniquement en matière de violence, mais c'est toutes les personnes qui ont des difficultés à gérer, ça peut être une divorce, donc une séparation en général, mais également un deuil ou des violences. Et on a la psychologue pour enfants.
Ahmed.
Êtes-vous obligé d'habiter aux Fontaines pour faire partie de l'association ?
Alors non, pas du tout. Effectivement, c'est ce que j'ai pu dire tout à l'heure, on n'est pas obligé d'appartenir au secteur des fontaines pour venir à l'association. Il suffit, nous on a une plaquette qu'on peut distribuer à certains de nos acteurs et effectivement, il suffit de prendre un contact avec le secrétariat et peu importe l'endroit où on est, on peut intervenir. Il faut savoir également que nous, on a d'autres personnes dans le département du 28. Donc on a également une juriste et une psychologue dans le département du 28. Donc si les gens appellent mais font partie d'un autre département, on peut les envoyer vers le CIDFF de cet autre département.
Sakina.
Vous travaillez en collaboration avec les autres départements ?
Alors oui, et on a un CIDFF en principe par département. Et donc nous, on est particulièrement en lien du coup avec notre antenne au 28.
Pauline.
Oui. Est-ce que vous intervenez que quand un homme bat ou, par exemple, il y a des enfants qui sont en divorce et que l'enfant vit mal? Est-ce que, par exemple, vous pouvez aller... Enfin, l'enfant peut vous voir, peut aller vous voir pour des conseils?
Alors, on a rarement affaire aux enfants, puisque effectivement, c'est assez rare qu'un enfant appelle l'association pour avoir des informations. Principalement, c'est les parents qui viennent nous voir dans le cadre de la procédure. Après, il faut savoir que les enfants peuvent être entendus par la justice, donc nous, c'est ce qu'on va conseiller. C'est principalement les parents qui viennent nous voir, mais on va leur dire que si l'enfant veut s'exprimer dans la procédure qui le concerne, c'est son droit, et dans ces cas-là, il faut faire la demande directement devant le juge aux affaires familiales.
Pour quelles raisons cette association a été fondée?
Donc principalement pour venir en aide aux femmes et effectivement aux familles, puisqu'on a pu se rendre compte qu'il n'y avait pas forcément une égalité et que les droits des femmes, il y a encore une évolution à faire aujourd'hui. Et l'association aide également dans cette démarche-là, puisqu'on fait aussi des interventions collectives. En plus des entretiens individuels, on peut aussi faire des ateliers collectifs avec des groupes principalement de femmes pour faire réfléchir sur l'égalité entre les hommes et les femmes, le respect, l'image de la femme dans la société, tout ce genre de choses.
Sakina.
C'est possible qu'une femme qui travaille ici, s'est déjà fait battre quelque chose comme ça? Enfin...
Alors, ça peut être possible, effectivement. Peut-être que dans le passé, c'est déjà intervenu, mais alors, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mais effectivement, ce n'est pas une impossibilité en soi.
Alors, peut-être pour la question de Sakina, est-ce que ça vous est déjà arrivé, par exemple, de porter une aide à une femme, effectivement, qui a été battue, et par la suite, cette femme s'investit auprès d'autres femmes, une fois que sa situation, par exemple, s'est réglée, pour, par exemple, inciter les femmes à parler, enfin, est-ce que c'est des choses que vous pouvez constater?
Oui, effectivement, c'est des choses qui peuvent se constater, notamment dans des groupes de parole. Et dans les ateliers collectifs, par exemple, le thème des violences est abordé. Donc, une personne qui a déjà été victime de violences et qui a déjà pu être aidée dans les démarches, va aider les autres personnes du groupe à parler, à se libérer un petit peu de tout ça et à voir qu'il y a des solutions. Donc effectivement, ça aide.
Combien de personnes en bénéficient?
Combien de femmes et de familles?
Alors là, je ne vais pas avoir les chiffres exacts, puisqu'on n'est pas limité en nombre de personnes. Donc effectivement, c'est toutes les personnes qui appellent. Après, à l'année, je ne sais pas combien de personnes peuvent intervenir. Ça peut être assez variable.
Pousser les portes du CIDFF, c'est anonyme et gratuit?
Oui, effectivement, l'association, on intervient bénévolement. Donc, tous nos entretiens sont confidentiels. Ça, c'est extrêmement important de le dire. Tous les entretiens sont confidentiels et bien évidemment gratuits.
Sakina.
Et est-ce que ce métier, il vous plaît?
Alors oui, ce métier, moi, il me plaît. Je ne le fais pas depuis très longtemps, puisqu'avant j'avais une autre activité, mais effectivement ce métier me plaît puisqu'on se sent quand même à l'écoute des gens et on peut les aider. Donc comme moi par exemple, quand on a fait un parcours très juridique, effectivement on se sent utile puisque les gens viennent nous voir avec des questions très précises, ont des problèmes souvent importants, plus ou moins importants, et souvent qui les touchent de très près, ça prend à cœur. Donc effectivement, on se sent quand même très utile. C'est un métier qui nécessite quand même avoir de l'humanité.
Et a-t-elle toujours été aux Fontaines, cette association?
Alors, on a changé de locaux, puisque effectivement, avant on était sur Tour Sud, mais on est venu ici, puisque les locaux sont un petit peu plus grands. C'est des locaux qui sont mis à la disposition par la mairie.
Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions.
Trop mignonne. Donc, on est de retour sur Radio Campus, où tout de suite, nous recevons Catherine Dufresne. Bonsoir, Catherine.
Bonsoir.
Et donc, Catherine Dufresne, des Fontaines de l'Art. Et donc, est-ce que vous pouvez nous présenter peut-être l'association?
Alors, donc, l'association est située au 5 rue Jean-Baptiste Greuze.
près de l'allée Monteverdi. Et donc, on y est pour faire tout ce qui est poterie, peinture, toutes sortes d'art, en fait. De la mosaïque, ça passe par le crochet, par le tricot, enfin, tout ce qu'on peut imaginer, en fait, du moment que c'est de la création.
Tu es présidente, précisément, des Fontaines de l'Art.
Oui, depuis 3 ans.
Depuis 3 ans. Catherine, est-ce que tu vis sur le quartier des Fontaines ?
Pas du tout.
Alors, pourquoi tu as souhaité t'investir dans une association, dans un quartier dans lequel tu ne vis pas ?
Alors, j'ai souhaité, je ne sais pas si on peut appeler ça le mot « souhaité », mais c'est grâce à Marité qui, du coup, m'a demandé gentiment et que je n'ai pas su refuser, quoi.
Tu n'as pas pu refuser. Alors aujourd'hui, c'est combien de personnes qui fréquentent l'association Les Fontaines de l'Art ?
Alors, on a une quarantaine d'adhérents et je vais dire une 15-20 personnes qui viennent régulièrement toutes les semaines.
D'accord.
Une à deux fois par semaine.
Des hommes, des femmes ?
Plus des femmes, bien sûr.
L'art plastique attire plus les femmes que
les
hommes ?
On a un homme qui fait des toutes petites miniatures et je peux vous dire que c'est le coq dans l'atelier.
D'accord. Des personnes âgées, des jeunes
On a un petit peu de tout, en fait. J'essaie de recruter pas mal de jeunes, mais c'est plutôt... Non, je ne vais pas dire la moyenne, sinon ça va vous faire peur.
D'accord. Et pour adhérer aux Fontaines de l'Art, ça coûte combien ?
17 euros l'année.
D'accord.
Et pour se tester à plein de pratiques, la poterie, la mosaïque, si vous avez envie de faire du vitrail, eh bien, on va essayer de chercher un animateur qui va nous faire du vitrail... Voilà, 17 euros l'année, c'est pas cher du tout.
Non.
Vous travaillez avec des artistes de Tours, du coup, des plasticiens qui viennent faire des activités ?
Alors, en fait, pas forcément. On est surtout basé sur l'échange. En fait, le but, c'est que moi-même, je fais de la peinture. Je ne faisais pas de poterie en venant aux Fontaines de l'Art, mais vu qu'il y a un four, ça m'a donné envie d'apprendre. Oui, et du coup, il y a d'autres personnes qui nous ont appris. Et on est là sur l'échange aussi, sur essayer. Et voilà, c'est le but aussi. L'art, c'est surtout ça. C'est comme de la cuisine.
Il faut s'essayer.
Voilà.
Faut et là, s'essayer. Ce soir, vous proposez quoi, alors, du coup, aux jeunes dans le
Et bien, donc, du coup, on a fait des masques pour Halloween, pour demain.
D'accord. Pour qu'ils aillent chercher les bons.
Voilà.
Très bien.
Et cet atelier a rencontré un franc succès. Catherine, depuis cet été, t'interviens avec la Ligue de l'enseignement d'Indre-et-Loire sur le quartier des Fontaines. Donc, t'as proposé des activités art plastiques à la fois cet été et puis là, pendant les vacances d'automne. D'ailleurs, je t'ai taquiné sur le fait que t'étais présidente d'une association sur le quartier des Fontaines et que tu ne vivais pas aux Fontaines. Mais quel regard, toi, tu portes sur le quartier des Fontaines ?
Eh ben, c'est un quartier hyper vivant où on retrouve toute cette convivialité. Moi, j'adore voyager. Donc, aux Fontaines de l'Art, eh bien, écoute, aux Fontaines, j'y retrouve toute cette convivialité. On a fait des ateliers tout l'été. Tous les habitants sont descendus dans la rue pour nous offrir le thé, les gâteaux. C'est vraiment une chaleur humaine qu'on retrouve pas ailleurs. Enfin, ou qu'on retrouve dans certains quartiers, mais... Voilà.
Et alors les Fontaines de l'Art, ça reste aux Fontaines même ? Vous avez aucune activité d'une fois de temps en temps ailleurs en ville ou...
Non, on reste dans le quartier.
On reste concentré.
Tout à fait.
D'accord.
Et je crois que tu l'as dit au départ, imaginons là on nous écoute, on souhaite adhérer aux Fontaines de l'Art, où est-ce que ça se trouve ? Comment on fait pour prendre contact avec les Fontaines de l'Art ?
Eh bien, on vient nous voir le jeudi, il y a tout le temps du monde, de 14h à 19h, au 5 rue Jean-Baptiste Greuze.
D'accord. Merci beaucoup, en tout cas. Merci d'avoir répondu à l'exercice, alors que je sais que tu prends beaucoup sur toi pour le faire. Hein. À moins que Mathilde ait une autre question à te poser.
Non.
Donc, merci beaucoup, Catherine Dufresne, présidente des Fontaines de l'Art. Et Fontaine, c'est bien avec un S. Hein.
Oui,
c'est
tout
ça.
À fait.
On est d'accord. Très bien. Alors, maintenant, on va écouter une dernière
interview.
Exactement.
Tout à fait, des jeunes.
Réalisée par une bande de filles, d'ailleurs, dont deux sont autour de la table, Safa et Sakina. D'ailleurs, dont Sakina fait de la boxe dans ce club. C'est le club boxing des Fontaines. Enfin, non, c'est le club Academy El Badja Boxing, il me semble. L'appellation du club a changé. Donc, on va écouter cette interview très intéressante. Les filles étaient ravies de rencontrer Neji. On se retrouve juste après pour clôturer cette émission.
Bonjour, monsieur El Badja. Vous avez créé un club de boxe aux Fontaines. Pourquoi avez-vous souhaité le créer ?
Donc, bonjour à toi, Alice et Alison, hein, c'est bien ça. On a créé le club suite à une demande de quartier, parce que lorsque je suis arrivé au quartier, j'ai habité au quartier déjà en 96, Et quand on m'a sollicité pour créer ce club, parce qu'il n'y avait rien sur le quartier, sportivement, il y avait un club de football qui marchait plus ou moins, et puis les jeunes avaient besoin d'un sport de contact. Donc de sport de contact, il y avait... Donc moi, ça m'a intéressé. Il y a une personne qui a voulu le créer, mais il n'a pas continué la création. Moi, derrière ça, en 2000, j'étais déjà entraîneur à Joux-les-Tours et on m'a proposé ce projet, de conduire ce projet en Fontaine. J'ai dit OK. Je savais que ça allait être difficile parce que il n'y avait rien du tout, donc il fallait tout construire. Donc c'est un challenge pour moi de créer ce club. Donc voilà, c'était dans un premier temps pour répondre à une demande du quartier, quoi, et la municipalité. Voilà.
Est-ce que vous-même avez été boxeur ?
Oui, j'ai eu la chance de... Bah oui, j'ai été boxeur amateur et après boxeur semi-professionnel au club de Joux-les-Tours. Hein, j'ai boxé pas mal de temps à Joux-les-Tours. Et donc, c'est voilà d'où vient ma passion. J'ai pratiqué, oui, j'ai pratiqué pendant pas mal d'années. Et voilà, quoi. Donc c'est une double fierté pour moi d'avoir pu créer mon projet moi-même, quoi.
À quel âge vous avez commencé ?
J'ai commencé la boxe à 15 ans. Je faisais football et à côté, je faisais de la boxe. Et depuis l'âge de 15 ans, j'ai pas arrêté dans le milieu de la boxe, quoi. Donc...
Pourquoi avez-vous été attiré par ce sport ?
Ben, comme je disais tout à l'heure, moi, je suis originaire de Joux-les-Tours, des quartiers de Joux-les-Tours. Donc, dans les quartiers, c'est toujours pareil. On a besoin de se prouver à soi-même. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, bon, voilà, après, c'était un choix. C'est venu comme ça, par pur hasard. J'ai voulu découvrir. Puis, en fin de compte, ça m'a bien... je me sentais bien dans ce sport-là. Donc, c'est pour ça que j'ai continué. Hein. C'est vraiment, à la base, un pur hasard. C'était mixer le football et le sport de contact, voilà.
Est-ce que vous avez remporté de nombreux championnats lors de votre carrière ?
Nombreux, peut-être pas, mais j'ai eu la chance de boxer, de gagner des combats, oui, de faire les championnats de France et tout ça. Mais bon, voilà, moi, c'était vraiment avant tout un plaisir de vivre ce sport, avec quelques objectifs, bien sûr, de gagner des titres. Mais bon, après, ça a marché, plus ou moins, et puis voilà. Hein.
Voilà. Est-ce que cela a été compliqué de créer ce club ?
C'est jamais facile de créer quelque chose, mais c'est toujours possible de créer quelque chose. Donc, sachant que ça venait d'une demande aussi municipale, ils m'ont aidé à ce niveau-là, donc je ne peux pas dire le contraire. Le problématique de créer le club, ce n'était pas difficile. Ce qui était difficile, c'est de sensibiliser les gens du quartier à vraiment adhérer au sport, à ce sport-là qui est difficile parce que c'est des règles à suivre, c'est de l'investissement personnel, c'est beaucoup de choses. Et ça, c'est difficile parce qu'avant, il n'y avait rien et ils n'avaient pas l'habitude d'être structurés, d'être derrière des commandes de quelqu'un, être commandé par quelqu'un. Donc, c'était plutôt ça qui était difficile. Mais ça a bien marché, tant mieux.
Combien de temps cela a mis ?
Pour la création, donc on a créé en 2000, hein, je suis venu en 2000, 99-2000. Donc la première année, ça a été plus ou moins une année de transition, quoi, de mise en place, comme je disais tout à l'heure, d'instaurer des règles, ça a été très difficile, et de respecter les horaires, respecter le matériel. Et on va dire, vraiment, moi, ça m'a mis, 3-4 mois, vraiment, pour mettre vraiment bien en place, quoi. Après, le club, bon, au fur et à mesure, comme vous pouvez le savoir, j'ai eu beaucoup de jeunes qui ont adhéré, qui ont eu des résultats. C'est ça qui m'a permis d'avancer, quoi. J'ai eu des championnes de France et c'est ça qui a créé, aujourd'hui, l'image du club qui est nationale, quoi. Et là, voilà, c'est une fierté, voilà, à ce niveau-là.
Quel type de boxe enseignez-vous dans votre club ?
D'accord. Donc à la base, on est bien d'accord à la base, moi ma spécificité c'est la boxe anglaise, c'est-à-dire uniquement les points. J'ai toujours œuvré, j'œuvre encore aujourd'hui pour la boxe anglaise. Mais bon, comme on dit, il faut s'adapter à l'évolution. Et depuis, on va dire depuis 4 ans maintenant, on commence à proposer de la boxe pied-point, de la thaïlandaise, la boxe thaï. On a une championne du monde au club, hein. Donc des Fontaines. Donc à partir de ça fait 4 ans qu'on a commencé à développer la boxe pied-point au niveau du quartier. On a le grand champion Brice Guidon qui est au club et qui fait encore aujourd'hui les plus gros tournois du monde. Il travaille sur tout, il boxe sur toute la planète. Et donc on a la chance d'avoir des gens comme lui qui encadrent au niveau du club. Et voilà, maintenant, voilà pour répondre à ta question.
Pouvez-vous expliquer les différences
entre les deux boxes? La boxe anglaise, comme je disais tout à l'heure, c'est uniquement les points. C'est la boxe olympique. C'est la seule boxe qui est reconnue de façon olympique. Après, le pied-point, et vous avez plusieurs boxes qui existent en pied-point. Vous avez la boxe thaï, celle que je fais. C'est-à-dire, ils ont le droit de frapper avec les poings, les jambes, les tibias, les coudes. Voilà, c'est ça la boxe thaï. Après, vous avez la boxe française qu'on ne fait pas, nous, parce que on n'a pas d'encadrant et puis on n'a pas de demande. Où c'est avec des chaussures, ils boxent avec des chaussures, mais avec les jambes aussi, les pieds, quoi. Donc voilà.
Quel type de public accueillez-vous dans votre club?
Ça a été mon champ de bataille. Moi, le public, c'est tout public. J'accueille tout public. J'ai des filles de tout âge, des hommes de tout âge, et comme on peut voir encore aujourd'hui, donc j'ai pas de spécificité au niveau public. Donc voilà, c'est tout public, c'est ouvert à tout public. Après, moi, pourquoi j'œuvre là-dessus? Parce que je m'arrête pas sur la compétition. Les gens qui viennent au club ne sont pas obligés de faire la compétition. S'ils veulent pas en faire, on les force pas. Après, voilà, c'est pour ça qu'on est ouvert au maximum. On a beaucoup de licenciés grâce à ça, quoi. Il y en a qui viennent vraiment juste pour se défouler, pour se prouver à eux-mêmes certaines choses. Donc voilà. Mais il n'y a pas de public spécifique. C'est ouvert à tout le monde.
Combien coûte une licence dans votre club?
Alors, il y a plusieurs tarifs. Il y a des tarifs en forme. Aujourd'hui, il y a quelques années en arrière, c'était pas très cher. Mais aujourd'hui, une licence pour les enfants, c'est 160 €, je crois. Et parce que c'est plus moi qui s'occupe de ça. Au début, c'est moi qui faisais tout ça. Mais maintenant, aujourd'hui, on a essayé de déléguer. Et pour les adultes, c'est les étudiants, c'est 190. Et les adultes, c'est 210 €, je crois, pour l'année. Voilà.
Combien y a-t-il d'entraîneurs?
Alors... Aujourd'hui, nous sommes alors 3 entraîneurs pour les petits, parce qu'on a 40 ou 45 gamins, 45 enfants, de moins de 13 ans, dont vous faites partie vous. Et on a 3 encadrants pour les jeunes. Moi, je viens en surplus de temps en temps. Et on a 3 encadrants pour les adultes en boxe anglaise, et on a 2 encadrants au niveau de la boxe thaï. D'accord. Donc ça fait 2, 3 et 3. Ça fait combien? 3 et 3, 6 et 2, 8 encadrants. Voilà.
Combien y a-t-il de licenciés actuellement?
Aujourd'hui, on est rendu à 160 à peu près. Voilà.
D'accord. Est-ce que votre club remporte un fort succès?
Je pense que oui, parce que vu les gens qui... on a une augmentation au niveau des inscriptions, donc je pense qu'on est pris au sérieux, et je pense que les parents nous font confiance aussi, je parle au niveau des enfants, parce qu'on a de plus en plus, cette année on a encore explosé le quota, donc tant mieux. Donc ça veut dire qu'il y a une confiance qui nous est donnée par les parents, donc c'est en priorité, c'est notre priorité, quoi. Voilà, donc voilà.
Y a-t-il des champions dans le club boxing des Fontaines?
Alors, une parenthèse, maintenant le club ne s'appelle plus les Boxing des Fontaines, il s'appelle El Baja Boxing Academy, on a changé ce nom cette année, d'accord? Et il y a eu des champions, comme je l'ai dit, on a eu des championnes de France, des filles, on a été à savoir que ça nous a valu en 2010 avoir été reçu par le ministère des Sports, Jeunesse et Sports, à Paris. On est parti à Paris parce que j'étais le premier club en France à avoir été à promouvoir pour la boxe féminine. Donc on a eu les 2 championnes de France au niveau départemental, au niveau de la région, on était les premiers. Donc ça nous a valu un lauréat au niveau du ministère. Donc après ça, j'ai eu une championne du monde en pied-point aussi en 2011. J'ai eu un champion de France professionnel. J'ai actuellement un champion du monde pied-point professionnel, Brice Guidon. Et ben là, maintenant, on construit d'autres jeunes au fur et à mesure. Voilà.
Quelles sont les valeurs transmises par ce sport ?
Il y a beaucoup de valeurs. Déjà, le respect de soi-même, le respect de l'autre, d'accord ? Et le dépassement de soi-même. Ça, c'est important. Il faut toujours croire en ce qu'on veut faire. Et il faut être toujours positif. Même si c'est dur, il faut être toujours positif. Et l'avantage de ce sport-là, vous ne pouvez pas tricher avec ce sport-là. Parce que si vous trichez, Alors moi, je parle plus pour les compétiteurs. Je donne un exemple. Aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui font, qui se disent, ouais, voilà, ils font du sport dans le club. Et ils croient que arriver au haut niveau, c'est facile. Non, il faut de l'investissement. Il faut de l'investissement. Et si on triche, on n'y arrive pas. Donc, il faut être juste avec soi-même, vrai avec soi-même. Mais par contre, ça permet de... Il y a comme des valeurs de l'assiduité, le respect de l'autre, le respect du matériel, de son matériel, le respect des consignes. Et tout ça permet à la personne de grandir. C'est comme à l'école. Hein, si vous voulez vraiment arriver à quelque chose et vous n'écoutez pas le prof, arrive un moment, même si vous êtes doué, à un moment vous bloquez. Donc la boxe, c'est pareil, même si ce n'est pas le même objectif, mais c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est un sport qui demande beaucoup d'investissement. On a des sportifs qui ont, comment vous dire, qui ne font pas de la boxe, mais qui viennent se préparer avec nous parce qu'ils savent que c'est dur, c'est très dur. Donc ça demande de l'investissement, ça demande un respect de soi-même, un respect, de plusieurs choses, quoi. Donc ce sport vraiment, vraiment est vraiment reconnu comme quoi... Il peut aider beaucoup de jeunes à sortir aussi un peu de leur de leur cadre, c'est-à-dire les aider à les accompagner à vouloir aller plus loin, même dans leur vie personnelle. Donc ça, c'est important que vous compreniez que ce sport vraiment développe beaucoup de valeurs. D'accord.
Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions.
Ben, c'était un plaisir pour moi. Et puis bienvenue au club, hein, toutes les filles. Hein. C'est ouvert pour tout le monde, hein, d'accord. Merci à vous.
Tiens, d'ailleurs, j'ai posé une dernière petite question. Ouais. On a écouté l'interview, on est intéressé pour adhérer au club. Où est-ce qu'on va ? C'est l'adresse, les coordonnées ?
D'accord. Nous, on est situé place Johann Strauss, hein, à côté, là. Notre siège est situé à Tours, au Palais des Sports, mais la salle d'entraînement, c'est place Johann Strauss. Ça s'appelle la salle Jean Guérard. Les jours d'ouverture, c'est tous les jours. On est ouvert de 18h30 à 21h. Après, chaque jour a une spécificité au niveau du public, c'est-à-dire vous avez les jeunes le mardi, jeudi, de 18h30 à 19h30. Vous avez les adultes en boxe anglaise le lundi, mercredi, vendredi. Et vous avez le pied-point les mardis soirs après 19h30 jusqu'à 21h30. Mardi et jeudi, vous avez le pied-point, la boxe thaï. Voilà. Et vous avez de temps en temps le samedi matin où on propose du coaching individuel pour d'autres personnes qui ne peuvent pas venir la semaine. Quoi. Voilà.
D'accord. Merci.
Merci à vous.
Et donc voilà, c'était l'interview de Nejid El Baja. Et donc tout avec nous, nous avons Sakina qui a réalisé l'interview. Bonsoir Sakina.
Bonsoir.
Alors, ça t'a plu de participer à l'expérience d'aller interviewer Nejid du coup ?
Bah oui, ça m'a plu parce que pour commencer, je pratique de la boxe. Et bah voilà.
Et du coup, c'est un milieu qui t'intéresse ? T'en fais depuis combien de temps de la boxe ?
Bah depuis la rentrée.
Depuis la rentrée. Ça te plaît ?
Bah oui, j'adore ça.
Et donc tu referas des interviews et tu reviendras faire de la radio. Ça t'a plu ?
Oui, j'ai découvert quelque chose de nouveau.
C'est ça. Et maintenant, tu connais mieux le quartier des Fontaines alors ?
Bah je connais déjà. Mieux. Déjà, je savais pas qu'il y avait un CIDFF aux Fontaines.
Ouais, donc ça t'a quand même appris pas mal de choses et c'était super. Donc,
oui.
Parfait. Eh bien, écoutez, on arrive sur la fin de l'émission et bah. Merci à tous d'être passés par les micros de Radio Campus pour nous montrer tout votre travail. C'était sympa. Et puis, bah, merci Alexandra d'avoir chapeauté tout ça.
Merci à Radio Campus d'abord d'avoir accepté de nous avoir laissé l'antenne pendant 2 heures. Mm-hmm. Voilà, j'aimerais également remercier les Maisons des Jeux de Touraine, bien évidemment. J'aimerais également remercier Catherine Dufresne de l'association Les Fontaines de l'Art. J'aimerais fortement remercier aussi toutes les associations qui ont joué le jeu, qui ont répondu aux questions. Aux questions des jeunes, c'est-à-dire à la fois Jonathan de l'espace Jacques Villeray, mais également Madame Cuvier de l'association des habitants des Fontaines, Madame Wolfouf du comité de quartier, ainsi que Estelle Cassé de l'association des paralysés de France, qui est venue en direct à l'antenne, également Madame Delarue du vestiaire d'avoir répondu à nos questions, Barbara du CIDFF, et bien sûr Nedjid qu'on vient juste d'écouter, Club Boxing des Fontaines.
Tout à fait.
Je remercie fortement aussi l'espace Jacques Villeray de nous accueillir ce soir. Et puis je remercie surtout les jeunes, voilà, d'avoir et leurs parents, voilà, d'avoir joué le jeu.
Là, on fait partie de l'aventure.
Et, ouais, et de nous faire confiance à la Ligue d'enseignement depuis cet été. Voilà, notre objectif, c'est de faire découvrir plein de belles choses aux jeunes. Et sans eux, ça serait pas possible. Donc merci à eux de répondre présents à chaque fois. Pour finir, on va peut-être annoncer que Belle et Sébastien...
c'est à 20h30.
Exactement. Projection menée, animée par les tontons filmeurs à l'espace Jacques Villeray, 11 rue Saussure, quartier des Fontaines. C'est gratuit et accessible à tous. Donc venez, vous êtes tous les bienvenus.
Il y a une super ambiance. Monsieur. Tout le monde est... Oh oui, ça sent super bon en plus. Eh bien, merci encore à tous d'avoir été là. Nous, on se quitte. Du coup, on raccroche le direct. Et donc, bah, bonne soirée à tous, bon week-end, et moi je vous retrouve lundi dans Santé. Bonne soirée!